La musique est de retour.
Salut à tous et salut à toutes.
Bon.
Bienvenue à ce Musicorama assez génial.
Close up, take snap, hold up, take snap.
Oh, ok, vous ne faites pas d'erreur. Vous êtes bien connecté sur la radio sans concession.
Now in darkness, world stops turning. Ashes where the body's burning.
L'attitude actuelle commence à me polluer ferme. Ce qui n'était que provisoire s'est installé à long terme.
Radio provisoire.
Hello. Turn on the radio. I'm talking to you. I'm talking to you.
You're being grotesque.
It's pretty late.
Why don't you switch on the radio?
Salut à toutes et à tous. Bienvenue dans l'émission Décibel. Décibel qu'on retrouve du lundi au vendredi de 18h30 à 19h sur votre radio associative préférée, Radio PFM. C'est Honorine aujourd'hui à l'animation de cette émission et je suis accompagnée par téléphone de Jean-François et de Franck. Bonjour à vous deux.
Bonsoir.
Bonjour.
Alors au programme de cette émission, on évoquera finalement ton confinement et ton déconfinement, Franck. On parlera aussi de ta troupe de théâtre, Atrébat Théâtre, qui se trouve dans l'intercommunalité des campagnes de l'Artois. Mais d'abord, on commence en musique avec toi, Jean-François, tu nous proposes un morceau de jazz.
Une nouveauté pour commencer, afin de célébrer son 30e anniversaire, la star du jazz norvégien, Silje Nerga, vient de sortir début mai 2020 un double album avec dans un premier CD de toutes nouvelles reprises acoustiques de ses titres phares, Be Still My Heart, Mercy Street ou encore Japanese Blue, et dans le deuxième, 14 titres entièrement inédits. Ce dernier recueil est inspiré des souvenirs de la chanteuse dans sa ville natale de Hamar, où elle regardait passer les trains plus jeunes en rêvant de partir à l'aventure explorer le monde. À seulement 30 ans, après 16 albums et une nomination au Grammy Award, Silje Nerga prouve que l'inspiration n'est pas une question d'âge ou d'expérience, mais bien d'envie et de simplicité. On écoute le morceau Departure Time, issu de cet album.
I feel his touch is growing colder. Gone is the fire in his kisses. I am clinging on to something that's already gone. This is our last goodbye. He speaks to me like some kind stranger who has just happened to be passing. He makes every word mean so much less than I wish I heard. I feel him moving away. I will never feel his loving looks again. I will never wake to watch him sleep. Here in silence. praying for the sound of a closing carriage door before our eyes will dare to meet. I will never feel his loving looks again.
Nergar, un album émouvant aux sonorités planantes et relaxantes. On écoutait Departure Time, issu de cet album, paru au label OK, O-K-E-H, début mai 2020. Vous êtes bien sur les ondes de Radio PFM dans votre créneau Décibel.
Donc on est toujours en compagnie de moi-même, Honorine, de Jean-François, et rebonjour Franck.
Bonjour.
Donc, tu fais partie d'une troupe de théâtre dont tu officies en tant que président, qui s'appelle Atrébat Théâtre, dans la communauté de communes des campagnes de l'Artois. Comment tu as vécu cette période de confinement ?
Eh bien, comme je dirais tout le monde, à la maison, avec très très peu de sorties. Une fois par jour, je m'autorisais une heure de marche. Et puis, bien sûr, les courses pour le nécessaire.
Comment va se passer pour toi la reprise de ton activité professionnelle ? Est-ce que tu peux peut-être en parler ?
Alors oui, donc moi, je suis enseignant au lycée agricole de Savy-Berlette. Et pour l'instant, nous ne savons pas la réouverture du lycée. La décision sera prise le 25 mai pour les élèves de 4e, 3e, et pour les lycées professionnels. J'ai quelques réunions par visioconférence. J'ai une réunion mercredi avec les collègues et on saura donc le 25 mai si on reprend à partir de début juin.
Alors, tu étais, j'imagine, en télétravail. Comment tu as gardé contact avec tes élèves durant ces 2 mois ?
On travaillait effectivement en raison d'un travail que je fournissais via une plateforme où je pouvais envoyer le travail. Les élèves m'envoyaient les copies, on va dire, et puis je leur apportais des éléments de correction et je leur laissais le temps de faire les exercices, d'apprendre la leçon, bien sûr. Et je répondais aux familles, aux parents également, aux élèves. Depuis donc maintenant bien presque 2 mois.
Alors, est-ce que tu as vécu des décrochages avec les élèves ? Est-ce qu'il y a eu des élèves décrocheurs ?
Oui. Je dirais que selon les classes, hein, j'enseigne sur 5 classes, en 4e, 3e le français, et en 2e, 1er terminale les arts appliqués. Je dirais que dans les classes de 4e, 3e, peut-être un tiers étant en contact, les autres, je n'avais pas de nouvelles. Et puis en classe de lycée, c'était 3 ou 4 élèves par classe.
Donc, est-ce que tu sais peut-être pourquoi ?
Tout d'abord, bon, le brevet et le bac pour cette année, c'est une année exceptionnelle, sera validé par le contrôle continu. Donc, les notes s'arrêtent au second trimestre, enfin le premier et second trimestre. Et donc, pour certains, ils savent déjà à l'avance qu'ils ont la moyenne, donc l'acquisition du diplôme.
Donc, on parle beaucoup, bien sûr, en termes d'éducation, du ministère de l'Éducation nationale, où il y a pas mal d'interventions du ministre. Comment se crée ce rapport avec le ministère de l'Agriculture en termes d'éducation dans ce temps de confinement ?
Notre tutelle supérieure est le Conseil national de l'enseignement agricole privé, qui, ben, on va dire, s'aligne sur les directives de l'éducation nationale pour faire en sorte que le travail, déjà le suivi scolaire, soit fait. Ensuite, il y a des statistiques qui remontent, tout cela, bien sûr, avec la direction du lycée. Et puis, eh bien, tout le protocole pour la reprise dans des bonnes conditions à partir de début juin, c'est-à-dire les mesures barrières, la distanciation physique et puis les 4 mètres carrés entre collègues et pas plus de 15 élèves par classe.
Donc là, c'était vraiment pour l'aspect professionnel. Il y a aussi une autre passion qui t'anime depuis plusieurs années, c'est le théâtre. Donc je l'ai dit au début de cette émission, tu es président d'une association de théâtre amateur qui s'appelle Atribat Théâtre. Est-ce que peut-être tu peux revenir sur cette troupe, comment elle est née et surtout aussi comment tu envisages finalement la suite des répétitions et des spectacles. Comment ça va se passer, le fait de répéter, de pouvoir proposer des spectacles amateurs aux habitants en temps de déconfinement?
Notre association a 7 ans d'existence. Nous sommes basés à Savy-Berlette. Et en ce qui concerne nos spectacles, alors tout dépendra bien sûr des conditions d'accueil du public. Tout dépendra également des autorisations. On a 2 spectacles qui devaient se dérouler en extérieur, donc c'est une forme déambulatoire où le public est en arc de cercle autour de nous et on joue des textes courts. Pour l'instant, les dates n'ont pas été, je dirais, annulées. Tout est reporté à la rentrée de septembre. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, bien sûr, c'est un temps de répétition et nous ne pouvons pas, pour l'instant, accéder aux salles de la commune puisqu'il y a un arrêté municipal. Et ça complique, on va dire, les répétitions.
Franck, la pandémie a tout de même mis en évidence les limites du monde théâtral et puis même celui du monde du spectacle dans sa globalité. Qui dit qu'aucun rassemblement n'est autorisé dit aussi qu'il n'est donc pas possible de répéter, comme tu nous l'as indiqué. Tu as été confronté à cette situation. Quelles alternatives sont à ton avis possibles? Et puis, est-ce que tu as observé aussi des nouvelles manières de répéter, de faire du théâtre en ces temps de confinement?
Alors oui, il y a des initiatives via les applications. Certains se donnent la réplique sur des textes, sur des créations, sur des écritures. Ensuite, j'avais une idée qui était donc de travailler des textes et de le proposer pour, on va dire, la radio, des textes radiophoniques, donc soit écrits pour la radio ou d'autres textes qui, je dirais, pourraient égayer les cœurs en ce moment.
Énormément d'annulations pour cet été. L'agenda des spectacles va être très vide. Des spectacles avant la fin de l'été, il ne faut pas trop en espérer. Un regain de puissance est-il, à ton avis, possible pour l'arrière-saison? Est-ce qu'on peut espérer voir, malgré un retard, des créations aboutir avant la fin de l'année, tout en prenant en compte les nécessaires temps de répétition?
Alors, tout dépendra, je dirais, des actualités, des mesures sanitaires qui seraient autorisées, et puis, bien sûr, du public qui reviendrait, c'est-à-dire qui reviendrait sans avoir la peur au ventre, comme dans toute activité. Voilà, c'est bien sûr la protection, la sécurité avant tout. Je l'espère, puisqu'on avait des créations, des spectacles prévus à l'automne. Donc cet été, je suis également pessimiste pour les spectacles, puisqu'on manquera de temps de répétition. Et je croise les doigts. Voilà, je ne peux pas vraiment dire plus. Je crois qu'on est tous dans l'attente. Et voilà, j'espère qu'en septembre, on pourra reprendre une activité normale. D'autant plus que Atribat Théâtre compte une école de théâtre avec une trentaine d'enfants qui sont, comme vous pouvez l'imaginer, en attente, qui trépignent pour jouer. Et je leur réponds la même chose. Pour l'instant, on ne peut pas. Et ce que je trouverais absurde, c'est d'être dans la défiance de ne pas être proche, de peur de se contracter, de contracter le virus. Et puis aussi de jouer, ce qui serait aberrant, avec un masque sur la bouche.
Alors Franck, tu vas nous proposer la lecture d'un premier texte?
Oui.
Donc ce temps de confinement, finalement, t'a permis aussi peut-être de relire des œuvres?
Oui, bien sûr. Alors je vais présenter rapidement un roman que j'ai lu pendant le confinement qui s'intitule « Les 16 arbres de la Somme » et qui devait être le point de départ d'une de nos créations. On joue depuis 5 ans maintenant des enquêtes policières interactives. Et donc, j'avais eu le conseil de lecture de ce roman. Donc, je l'ai parcouru et il est vraiment passionnant. Alors, c'est un auteur norvégien. Voilà. Jean-François citait le jazz tout à l'heure. Et là, donc, l'auteur s'appelle Lars Mytting. Et donc, c'est l'histoire d'un homme qui va toute sa vie retrouver en fait une énigme de son enfance où il a été retrouvé abandonné dans une forêt près de la Somme, dans la Somme. Il va donc remonter le fil de son histoire avec une journaliste et il va donc venir de Norvège pour essayer de tenter de retrouver des personnes. Et il va donc découvrir une histoire incroyable. C'est lors d'une bataille dans la Somme avec les soldats britanniques, il y a eu donc bien sûr le déluge et une partie d'un bois qui comptait un étang. L'histoire raconte qu'en fait le sang versé est remonté par les racines des arbres, donc de noyers, et en fait le bois va servir de cercueil et de crosse de fusil. Et ces quelques pièces très rares vont avoir une somme astronomique. Donc, j'ai trouvé l'histoire intéressante. C'était le point de départ pour, on va dire, découvrir qui aurait pu dérober un fusil très ancien d'une valeur inestimable. Et je trouvais vraiment le sujet original. Donc, si vous le souhaitez, je peux vous lire un extrait.
Oui, tu peux.
Lors de la mise en place du vaste programme national dit de reconstitution des régions dévastées, le propriétaire de la forêt souhaita que la zone soit nettoyée pour pouvoir y replanter des arbres. Mais c'était un travail auquel on dut renoncer rapidement. La concentration de grenades était telle qu'on laissa les démineurs se contenter de la création d'un seul passage sûr à travers le bois. Le propriétaire n'obtint pour tout dédommagement que du fil barbelé pour clôturer la zone. Fourrés et petits arbres commencèrent à sortir du sol. Mais la terre était impossible à entretenir. Le propriétaire entrait parfois dans le bois par le sentier sûr. De loin, il observait les 16 noyers brûlés qui avaient donné de riches récoltes avant la guerre. Il voyait désormais que les noix n'étaient plus saines. Les fruits étaient noirs et rabougris. Et le feuillage ne tarda pas à se tacher de gris. Entre-temps, un négociant en bois écossais entendit parler des arbres par un soldat rentré au pays. Et dans les années 1920, il se rendit à Hauteville avec des démineurs privés, s'assura un passage jusqu'à l'un des arbres et le fit abattre avec la racine. Lorsque le tronc fut acheminé à une scierie, ils s'aperçurent que le bois avait un motif rouge doré. Le négociant pensait qu'il s'agissait d'une réaction au gaz toxique. Il fit scier la racine par ses meilleurs employés et ils constatèrent aussitôt que le noyer ancien était du plus haut grade de qualité, voire le dépasser, et valait donc une fortune. Fortune d'emblée décuplée par l'histoire de la guerre, vivait dans ses veines. En soi, le noyer était un bien chéri de la classe supérieure britannique, admiratrice de beaux bois depuis des générations. Le négociant jugea que la chose à faire était de proposer le noyer, exclusivement, sous forme d'ébauche pour crosse. Les armuriers pourraient ainsi proposer de coûteux fusils de chasse qui seraient à la fois des joyaux et des souvenirs de guerre, les porteurs des souffrances et de la victoire du pays. Le propriétaire de la forêt accepta que le négociant abatte les arbres et déterre les racines, sans que l'on en connaisse la contrepartie. Le négociant remarqua qu'un veinage sinueux continuait de se développer, les arbres mourant lentement. Il souhaita attendre avant de les abattre, car il pensait que les sillons du bois n'atteindraient le summum de leur beauté qu'au moment où les noyers seraient prêts d'abandonner la lutte. Dans le premier arbre, il avait découpé 24 ébauches pour crosse, dont 12 furent vendues aux plus grands armuriers du pays. 3 à Purdey, 3 à Dixon, 2 à Holland & Holland et 4 à Boss & Co. Les riches de ce pays, fatigués par la guerre, s'éprirent de l'histoire du bois. Et malgré la misère générale, les armes se vendirent à des prix astronomiques. Voilà pour l'extrait.
Merci Franck. Pour reparler peut-être du ministère de la Culture, est-ce que ben, finalement, à l'annonce du déconfinement, donc en tant que troupe amateur, vous avez eu des consignes particulières dans l'éventualité de reprendre des répétitions ?
Pour les répétitions, pas vraiment. Le maintien d'un festival, puisqu'on organise un festival, ce aurait été la 3e édition cette année, en milieu rural, le petit festival, comme l'a nommé le ministre de la Culture. Et c'est contraignant également, puisque les troupes sont à l'arrêt. Donc, j'ai contacté quelques troupes qui ne seraient pas prêtes. La jauge publique, l'accueil du public, évidemment, et puis aussi en termes économiques. C'est-à-dire que si on fait des petites jauges en rentrée économique, ce serait quand même très difficile pour nous, pour l'association.
Une question aussi au niveau de l'intercommunalité. Comment vous êtes aidé à l'issue de ce confinement? Donc, il y a eu les élections municipales qui ont eu lieu, où certains maires ont été réélus. Donc, il y a peut-être aussi un changement de plateau pour les élus au niveau de l'intercommunalité des campagnes de l'Artois. Comment les campagnes de l'Artois vous soutiennent dans ces temps, on va dire, de confinement et de déconfinement avec les annulations?
Alors, que ce soit au niveau, bien sûr, local, la commune de Savy-Berlette nous soutient également de par l'attribution de la subvention qui a été maintenue. Et puis, les campagnes de l'Artois également, j'ai eu en contact le vice-président chargé de la culture qui maintient une partie de la subvention, puisque, comme je l'ai expliqué, le festival n'aurait pas lieu. Donc, on a tout de même la moitié de la subvention pour subvenir, pour s'en sortir, pour nous relancer après le déconfinement, lorsqu'on pourra retrouver une activité normale.
Alors, on l'a observé ces derniers temps, tout de même une inaction de la part du ministre de la Culture dans la situation actuelle. Le monde du spectacle s'annonce d'ores et déjà en soins intensifs pour cause de Covid. Alors, annulation de concerts, de pièces de théâtre, on ne va pas revenir là-dessus. Problème également pour les intermittents de boucler leur quota horaire. Quelle est ta perception peut-être plus globale à l'heure actuelle de ce triste tableau? On autorise les supermarchés à rester ouverts et puis finalement les théâtres resteront fermés encore pour quelques temps.
Effectivement, pour les professionnels, je leur apporte tout mon soutien puisque j'en connais beaucoup. On travaille également avec des compagnies professionnelles, on organise des stages. Je pense beaucoup à eux dans ces moments. Mais en fait, le problème est le même, en fait, en accueil public, se poser, par exemple, l'accueil des spectateurs avec un rang sur deux, une personne, tous les trois fauteuils, et je pense qu'au niveau économique, ça va être aussi une catastrophe pour eux. Et en ce qui concerne les conditions de répétition, je ne vois que des répétitions dans des grandes salles où ils peuvent se tenir à distance. Voilà, en respectant les gestes barrières. Mais bien sûr, vous savez que dans le monde du spectacle et dans la création, que ce soit le théâtre, la danse, on est proche, il y a des contacts. Hein, c'est un peu comme si on jouait au foot sans se toucher. Au théâtre, il y a des contacts. Donc, la situation n'est pas terrible.
Peut-être une dernière question relative au déconfinement. Comment tu vois peut-être par la suite, peut-être une analyse sur l'après-confinement?
Mon souhait, c'est que bien sûr, ce soit une vie qui ne soit pas la vie d'avant, comme on le souhaite, c'est-à-dire éviter d'être dans une surconsommation. On a appris, je pense, de ce déconfinement, j'en suis même sûr. Dans nos comportements, on voit la nature se réveiller. Ça, c'est une beauté. J'envisage de réparer mon vélo. et puis, bien sûr, de retrouver un semblant de vie normale, tout doucement, puis on verra par la suite.
Alors, tu nous proposes un second texte, donc là, c'est une fable. Hein. Donc, dans ta troupe de théâtre, tu aimes proposer plusieurs formats et plusieurs types de spectacles aussi, sur plusieurs types de formes.
Oui, voilà, on ne s'arrête pas à un genre particulier, on ne s'enferme pas dans un répertoire. On a travaillé des textes classiques, comme je le disais tout à l'heure, on joue en improvisation des enquêtes policières interactives, et puis des textes contemporains, des textes engagés aussi, on l'a fait. Donc là, j'ai choisi une fable qu'on n'a pas jouée, c'est un spectacle qu'on a tourné pas mal, mais cette fable-là, n'a pas été... jouer. Alors, on joue en costume d'époque, On est en habit de la cour, avec des jolies robes pour les dames et des costumes pour les hommes. On représente des marquis. Voilà. Moi, je joue un personnage qui, en fait, est le patronyme. Enfin, je joue Jean de la Source. Voilà, c'est le patronyme de Jean de la Fontaine. Et je m'amuse à animer, à jouer un peu en interaction avec le public, les enfants, etc. Et notre forme a plu. J'espère qu'on jouera encore, puisqu'on devait jouer dans des écoles. Et voilà, notre spectacle a beaucoup plu. Et j'avais donc choisi une fable qui est connue, c'est La laitière et le pot au lait. La laitière et le pot au lait. Perrette, sur sa tête, ayant un pot au lait bien posé sur un coussinet, prétendait arriver sans encombre à la ville. Légère et court-vêtue, elle allait à grands pas, ayant mis ce jour-là, pour être plus agile, cotillon simple et souliers plats. Notre laitière, ainsi troussée, comptait déjà dans sa pensée tout le prix de son lait, en employait l'argent, achetait un cent d'œufs, faisait triple couvée. La chose allait à bien par son soin diligent. Il m'est, disait-elle, facile d'élever des poulets autour de ma maison. Le renard sera bien habile s'il ne m'en laisse assez pour avoir un cochon. Le porc à engraisser coûtera peu de son. Il était, quand je l'eus de grosseur raisonnable, j'aurai le revendant de l'argent bel et bon, et qui m'empêchera de mettre en notre étable, vu le prix dont il est, une vache et son veau. Que verrai-je sauter au milieu du troupeau? Perrette, là-dessus, saute aussi, transportée. Le lait tombe. Adieu veau, vache, cochon, couvée. La dame de ses biens, quittant son œil mari, sa fortune ainsi répandue, va s'excuser à son mari, en grand danger d'être battue. Le récit en farce en fut fait. On l'appelait le pot au lait.
Merci Franck pour donc cette fable de Jean de la Fontaine. Peut-être une dernière question, Jean-François ?
Oui, une dernière question en écho à ce que tu disais tout à l'heure, Honorine. On a beaucoup parlé théâtre. Est-ce que le théâtre donne des enseignements par rapport à la situation actuelle? Est-ce que ça peut être un moyen de s'y accrocher pour trouver des réponses à la situation de confinement que l'on vit tous pour les dernières heures?
Le théâtre véhicule beaucoup, beaucoup de valeurs et d'espoir. Et je dirais que aussi son côté éphémère est très universel, puisque cette fable qui raconte justement de ne pas s'imaginer trop vite l'acquisition de biens, puisque tout peut s'arrêter à tout moment, et ben je pense que c'est une belle allégorie à la vie, où tout peut s'arrêter comme ça d'un jour ou l'autre, et puis voilà, il faut vivre, chaque jour qui passe il faut vivre et penser positif.
Alors pour terminer cette émission, tu nous proposes un titre, Franck, un titre de Oasis.
Oui, donc c'est Don't Look Back in Anger que j'écoute souvent et voilà, qui me fait résonner, qui me plaît beaucoup.
C'était le titre Don't Back in Anger par Oasis. Et c'est sur cet extrait que se termine cette émission Décibel du jour. Merci Jean-François et Franck d'avoir participé à cette émission.
Merci Honorine, merci Jean-François.
Bonne soirée Franck, à bientôt à tous.
À bientôt.